Merci vraiment à chacun. Quel bon moment de louange. Comme ça fait du bien de louer le Seigneur et de sentir tellement sa présence ici. C'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver. Et le message que j'ai à vous dire, que le Seigneur m'a mis à cœur, je l'ai intitulé « Poursuivre le vent ». Ça va un peu dans les éléments dont Laetitia parlait avec les gouttes d'eau de la rivière. Et je pense que c'est une bonne suite au chant que vous avez choisi. Il y a 2 semaines, j'assistais à une formation sur le métier d'entraîneur. C'est mon job. Cette formation était donnée par un ami à moi qui est une sommité dans son domaine. C'est vraiment quelqu'un qui est au niveau européen top niveau. Et il y a quelque chose qu'il a dit dans son introduction qui m'a interpellé et que je vous livre. Dans la société d'aujourd'hui où nous vivons, la somme des connaissances que l'homme a double tous les 7 ans. Ça veut dire, maintenant tu as 20 ans, tu es, supposons, un monstre intellectuel. Ça veut dire que quand tu auras 27 ans, c'est-à-dire pas trop un ringard quand même, tu risques peut-être d'être déjà un peu vieux. Sauf si évidemment tu fais l'effort de te tenir au courant de tout ce qui sort comme recherche. Je vais parler seulement du domaine des sciences. En un an, 100 000 recherches sortent. 100 000. J'ai suivi une formation qui est dans un secteur très précis qui s'appelle l'apprentissage du mouvement. Dans ce domaine-là, il en reste encore 10 000. Et dans ces 10 000 qui sont pertinentes, on va dire qu'il y en a encore 1 000 qui sont vraiment innovantes. 1 000 recherches par an. Évidemment, je suis un passionné, donc je vais quand même me les farcir, toutes ces études, parce qu'elles m'apportent quelque chose. Et je dois donc en lire 3 par jour. Comme je suis ici ce matin, je dois en lire 3 cet après-midi. Et puis encore 3 demain. Et puis encore 3 mardi. Oui, mais les études, je vais quand même en lire que le résumé parce qu'il y a un tas de données qui sont peut-être inutiles. Et donc il faut quand même que je les intègre aussi, ces études. Et puis il faudrait bien que je les applique, que j'en sorte quelque chose, sinon à quoi ça sert? Ça donne le tournis, non? Si vous suivez toujours, je vous crie stop, stop. Si on veut ça, si on cherche ça, on commence à poursuivre le vent. T'es en fait parti pour la folie, pour une sorte de démence. C'est ce que on a appelé un peu pudiquement la soif de la connaissance absolue. Et ça, Salomon, il y a 3000 ans, il a déjà résumé ça dans un livre. Et dans un livre où on voit à plusieurs reprises ce petit verset. Tout n'est que fumée. Tout n'est que fumée. Dans ce livre étrange qu'on appelle l'Ecclésiaste, Salomon nous l'a écrit pour qu'on comprenne un peu le sens de la vie. Qu'on ait quand même des notions de ça. Et il voulait nous montrer que certains chemins qu'on emprunte n'ont aucun sens. Aucun sens. Et que parfois même, on prend des routes où on vit dans une sorte d'absurdité. Et c'est un livre étrange, mais tellement actuel, tellement moderne. Et qui, je pense, si on le lit à son aise, est une réponse à la course effrénée que nous menons. Alors certains d'entre nous, cette course-là, elle va vers le pouvoir. D'autres, elle va, comme je le disais tout à l'heure, vers la soif de la connaissance. Il y en a où la course effrénée, c'est vers l'argent, vers le plaisir, ou vers la gloire personnelle. Et cet extrait que je veux vous partager dans l'Ecclésiaste, il est spécial. Je l'ai trouvé très spécial. Parce que il nous donne un éclairage sur le temps. Le temps, c'est un fléau dans notre époque. Ces versets que je vais vous lire, il y en a 15 dans le chapitre 3. Essayez de les entendre comme des poteaux indicateurs. Mais souvent, un poteau indicateur, il vous indique aller à gauche ou à droite. Mais il ne faut pas lire ce chapitre comme ça. Il faut le dire que parfois je dois prendre cette direction et parfois je dois prendre l'autre. Ces choix qu'on va faire de prendre ce poteau ou de ne pas le prendre, ils ne seront pas sans conséquences. Il y aura des conséquences à mon choix, bonnes ou moins bonnes. Et ce texte, si on voulait le résumer, c'est il y a un temps pour tout. Je vous lis. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne? J'ai vu à quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toute chose belle au moment voulu. Il fait toute chose belle au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin, j'ai reconnu que le seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie, et que si un homme mange et boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit. Et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Ce qui existe a déjà existé, tout comme ce qui existera. Et Dieu ramène ce qui est passé. Quel texte ! Quel texte extraordinaire ! Et en lisant, j'ai encore des frissons parce que il m'interpelle à d'autres moments et j'ai envie de dire « Oh là là, j'ai choisi ces poteaux indicateurs-là, j'aurais dû choisir celui-là parce qu'il me parle. » Parce qu'hier, j'ai vécu une journée et que cette journée m'a amené ailleurs à choisir un poteau. Lorsqu'on cherche à donner un sens à sa vie, il y a une question dont on ne peut pas faire l'impasse. À quoi est-ce que je passe mon temps? En d'autres mots, si on va un peu plus loin, oui, mais à quoi je sers, moi? À quoi je sers? Notre monde, il est de plus en plus technologique, de plus en plus connecté. Et ça, je pense que ça fait peser sur notre cœur et nos pensées beaucoup de questions qui sont parfois anxiogènes. Combien de personnes, pendant cette période, ne se sont pas senties isolées et abandonnées? Combien de personnes, et je pense que je suis un peu connecté, mais parfois, je suis totalement découragé parce que je comprends plus rien. Est-ce que mon utilité est liée à ce que je comprenne comment fonctionne un smartphone? On en est parfois là, hein. Et pourtant, ça a toujours existé, ça. La Terre s'améliore. Le problème, c'est que avant, c'était réservé aux vieux, aux plus âgés. Mais maintenant, les amis, si si vous vous référez à ce que je vous ai dit dans l'introduction, c'est très vite que vous allez être confronté à ça. À 30 ans, vous serez dépassé. Si on accepte d'être dépassé. La question du sens de la vie, pour nous qui sommes des enfants de Dieu, je pense que c'est une clé. C'est une clé qui nous permet de faire la différence et de vivre la différence. On ne peut pas se laisser embarquer par ça. On ne peut pas se résumer à une compréhension intellectuelle. Et si on accepte cette idée, ça nous permettra de témoigner de notre différence. À combien d'endroits dans la Bible, le temps semble passer comme un souffle, de vent pour Jésus. Pensez à 40 ans dans le désert pour le peuple. Pensez à Moïse qui reçoit son appel à 80 ans. Pensons à Joseph qui est resté oublié, totalement oublié, 2 ans en prison. Est-ce qu'on peut imaginer combien ils ont dû compter les minutes, les heures, les jours, les semaines? Et nous? Nous, on est des zappeurs professionnels, hein, les rois de la zappette. Je sais pas vous, mais si vous avez déjà été devant un ordinateur et qu'il ne répond pas dans les 5 dixièmes de seconde, on s'énerve. Hein. On s'énerve, hein. On peste. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé à un feu rouge comme deuxième voiture avec le premier qui n'a pas vu que c'était passé au vert et au bout d'une seconde et demie, on vrit? Il y a une différence entre ces deux notions de temps. Et nous, j'aime bien cette phrase, nous vivons le temps comme un temps cannibale. Et le temps de Dieu, pour nous, c'est vraiment incompréhensible. Hier, c'était le mariage de Jay. Et je suis sûr, quand on le voyait rayonner de joie, il se marie à 33 ans, qu'il en a vécu des jours et des jours où il n'y croyait plus. Parce que c'était long. Mais hier, ces longues années, pour lui, c'était un souffle de vent. Un souffle de vent. Et c'est vrai, parce que quand Dieu agit, hein, je vais y revenir plus loin, tout ce qu'on a vécu, tout ce qui pour nous était pesant, ça se dilue. Comme vous chantiez tout à l'heure, quand Sarah avait sa guitare, j'avais vraiment cette impression-là. 3 notes, le vent. Je vais aller un peu plus loin. Dans ces 15 versets, il y en a un qui m'a vraiment interpellé, c'est le verset 11. Et ces deux éléments, vous devez essayer de les garder en tête, de les retenir pour toute la suite du message. La première partie, c'est « Dieu fait toute chose belle au moment voulu ». Dieu fait toute chose belle au moment voulu. Et la deuxième, qui est peut-être un peu plus complexe ou un peu plus étrange, Dieu a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Dieu a mis dans le cœur de chacun d'entre nous la pensée de l'éternité. Et ces deux éléments, je vais m'arrêter à quelques poteaux indicateurs. Essayez de les avoir en tête, même si je vais vous les rappeler, moi. J'ai choisi un temps pour chercher et un temps pour perdre. On sort d'une période, qu'on le veuille ou pas, qu'on se l'avoue ou pas, cette période, elle va laisser des traces. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont relativement bien vécu le confinement et qui vivent très très mal. Le déconfinement. Bizarre, hein? Et pourtant vrai. Il y aura des conséquences. Il y a des conséquences à ce qu'on vient de vivre. C'est le temps de chercher.
Je l'ai dit à beaucoup de jeunes que j'ai rencontrés ces deux dernières semaines. Si vous poursuivez votre vie comme avant, je veux faire une tête de sceptique. Qu'est-ce qu'on peut chercher? Je pense que on doit envisager une nouvelle manière d'envisager nos relations au travail. Je pense qu'on doit réfléchir à la tolérance ou à l'intolérance. Je pense qu'on doit envisager la vraie écoute et le jugement couperet qu'on peut avoir. Je pense qu'on doit modifier notre relation à l'autre. Beaucoup de mes amis ont vu leur couple voler en éclats pendant le confinement. Beaucoup d'autres se sont rapprochés, se sont redécouverts en quelque sorte. J'ai aussi mis, il faut qu'on réfléchisse à sa relation au silence. Parfois, ça fait tellement peur, le silence. Et pourtant, parfois, je trouve que c'est tellement salvateur. Une dame que je connaissais bien est décédée cette semaine à 102 ans. 35 ans de home. Elle n'avait plus personne, plus ses enfants, plus tante, plus rien, plus personne. C'était juste une amie de ma mère. Et je me suis dit, si cette dame a eu une très mauvaise relation au silence, mais quel supplice! Mais quel supplice! Et pourtant, j'ai demandé aux infirmières, elle est restée joyeuse. Elle est restée joyeuse, joie de vivre. Sans doute pas tous les jours, mais quelle leçon. Je pense aussi que cette période va nous amener à une remise en question. Une remise en question de nos convictions et parfois des fondements de notre foi. Je pense que tout le monde, on a eu une pensée pour ceux qui travaillaient dans les maisons de soins, dans les hôpitaux. On a peut-être, comme nous, écrit un merci sur les sacs poubelles. Étrange, hein? Étrange que tout à coup, ces gens à qui on ne parle en général pas sont devenus des héros. Nous en avons fait des héros, mais qu'est-ce qu'on va en faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va en faire maintenant? Est-ce que ils vont garder ce statut? Est-ce que la dame qui nettoie dans les hôpitaux, est-ce qu'on va continuer à la traiter en héroïne ou bien est-ce que, comme avant, on va passer sans même la regarder? Le temps de chercher est différent en fonction de ce que chacun aura vécu. Mais je voulais vous sensibiliser à ceci. Si on cherche dans la perspective de l'éternité, ça, c'est un dénominateur qui nous est commun à nous. Qu'est-ce que c'est en fait, si je veux vous l'expliquer un peu plus concrètement? C'est que on devrait essayer de ne pas laisser nos émotions, nos irritations, nos circonstances nous éloigner de l'appel que Dieu a sur notre vie. Si on peut continuer, malgré tout ça, à vivre en fonction de notre appel, on sera vainqueur. On aura une victoire bien plus grande. Et dans notre appel à tous, même si chacun on a un appel particulier, mais il y a des points communs. C'est ce que Laurent appelait la passion pour Dieu. Ça, ça nous est commun. Si Dieu t'appelle à servir, à être un modèle d'encouragement, de bienveillance, et plusieurs d'entre vous, vous l'avez, cet appel, est-ce qu'il change alors que dans votre vie, ça va pas bien ou c'est dur? Est-ce qu'on est capable, vous comme moi, de garder cette force de l'appel en nous? Est-ce que, si c'est dur financièrement, si vous perdez pas mal d'argent à cause du confinement, est-ce qu'on va accepter que votre voisin qui n'a aucun problème vienne près de vous et se lamente pendant une demi-heure parce qu'il a passé une mauvaise nuit? Ou est-ce qu'on va dire, mais mon gars, tu savais ce que moi je vis? Est-ce qu'on peut garder son appel d'encouragement malgré ça? Est-ce que tu peux montrer que tu continues à prier alors que toi, il y a le feu à la maison? Est-ce qu'on peut témoigner de ça? Alors, ce n'est pas des coups de revolver que je tire. Je ne veux pas du tout prétendre que la souffrance, ça ne compte pas. Il ne s'agit pas de dire qu'on n'a pas le droit de pleurer, ou qu'on n'a pas le droit d'être triste, qu'on n'a pas le droit d'avoir dur. Mais si on peut orienter ces choses vers le trésor qu'on a, tout change. Si je le remets dans la perspective du verset, essayons de vivre totalement, éternellement, dans la perspective de l'éternité, c'est-à-dire là où le temps ne compte pas. C'est très bien de chercher. C'est très bien d'être passionné. Mais il faut le faire dans la perspective du ciel. Chercher, ça peut être une attitude, une mentalité, un style de vie. Vous êtes tout le temps en train de chercher. Et c'est bien, et c'est juste. Mais si on le fait pour manifester la gloire de Dieu, vous allez faire la différence. Vous allez faire en sorte que quelqu'un qui te regarde faire les cheveux va te dire « Mais qu'est-ce qu'il a ce mec ?» Quelqu'un qui va t'entendre chanter, Cédric, va dire « Mais il y a quelque chose de spécial en lui, mais c'est quoi ça ?» On va amener l'autre à se poser des questions, pas parce qu'on est le super chrétien, parce qu'on est différent, parce que les circonstances, parce que la colère, parce que nos émotions négatives, on les a, on les vit comme les autres, mais c'est en deuxième. Parce que ce qu'on est, le trésor de Dieu qu'on a en nous, ne bouge pas. C'est notre socle. Dans le verset d'Ecclésiaste, il y a toujours deux poteaux d'indicateurs. Vous l'avez vu, c'est le temps de chercher et c'est le temps de perdre. Perdre la boule, perdre patience, perdre ses repères, perdre ses amis, perdre la foi, perdre son boulot, perdre de l'argent, perdre la vie. Bouh, pas gai, hein? Parce que l'homme n'est pas fait. Nous ne sommes pas faits pour accepter de perdre. Si vous avez parfois une pensée pour notre cher Donald Trump, le rêve américain s'est basé que si tu veux être un mec, il n'y a pas de problème. Tu dois gagner. Tu dois réussir. Le rêve américain est basé là-dessus. Mais ça, c'est la vision humaine de perdre. Car si on accepte que ça, c'est perdre, on va toujours penser que perdre, c'est le contraire de gagner. Mais perdre n'est pas que ça. Parce que parfois, perdre, ça a du bon. C'est étonnant, hein? Mais parfois, perdre, ça a du bon. La première fois que j'ai vu l'Ecclésiaste, j'ai vu oui, non, blanc, noir. Mais c'est pas du tout ça. Parce que parfois, si j'accepte, comme on vient de le vivre avec ce Covid, si j'accepte de perdre tous mes repères, ça va m'obliger à quoi ? À en créer d'autres qui sont bien meilleurs. Si on prend la vie du Seigneur, quand il rencontre le jeune homme riche, quand il rencontre un collecteur d'impôts, quand il rencontre la Samaritaine, mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre en leur parlant que de bousculer tous les repères qu'ils avaient. Tous. Et ça, on n'aime pas. Mais ça a parfois du bon de perdre. Est-ce que je peux accepter l'idée que téléphoner à une personne seule, c'est pas forcément perdre son temps? Est-ce que ça peut être simplement accomplir la volonté du Seigneur? Est-ce que je peux accepter l'idée que si pendant un temps je perds quelques centaines d'euros, ça va peut-être me permettre de me centrer sur l'essentiel et que cet essentiel, ça va m'amener ailleurs, à un meilleur endroit? Est-ce que je peux admettre que la perte de liberté qu'on a, vous êtes tous avec des masques, c'est une perte de liberté. Est-ce que je peux accepter que ça dépasse ce que je peux comprendre? Est-ce que ça dépasse, ça va bien au-delà de mon intelligence à moi? Dans Philippiens 3, j'aime beaucoup ce que Paul dit à propos de ça, de perdre et gagner. Ces qualités qui étaient, c'est au chapitre 3, versets 7 et 8. Ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause du Christ. Et je considère tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ. Et je voudrais encore ajouter un élément à cette notion de perte. Parfois, on joue petit bras. On veut s'assurer un petit gain. Et je vous donne un exemple. Je suis une personne qui perd 20 euros. Je les prends, ni vu ni connu. J'ai un petit gain. Mais peut-être que si j'avais rendu ces 20 euros, peut-être que mon portefeuille serait toujours à zéro, mais que j'aurais eu un gain bien plus important. Dans mon parcours de vie, j'ai rencontré de nombreux nouveaux riches. Des personnes qui ont tout à coup un grand apport d'argent par un héritage, par une vente. Et j'ai constaté qu'ils avaient, au bout d'un certain temps, beaucoup plus perdu que gagné. Beaucoup plus perdu que gagné. Car dans ces nouvelles circonstances, le plan de Dieu s'est estompé. Car les circonstances ont gagné. Je voudrais vous laisser ces deux petites phrases. Abrite-toi du vent. Car Dieu fait toutes choses belles en temps voulu. Abrite-toi du vent. Car Dieu fait toutes choses belles en temps voulu. Abrite-toi du vent. Car Dieu sait bien mieux que nous ce qui est bon pour nous. Je vois le temps qui passe et c'est toujours un peu dommage dans ce premier culte. Mais je vais sauter un autre poteau indicateur. Voilà, ceux qui veulent le voir, j'avais fait quelque chose sur un temps pour parler et un temps pour se taire. Mais il me reste trop peu de temps. Donc je vais faire le troisième. Le troisième, c'est, ça m'a interpellé, un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour aimer, ok, mais un temps pour détester. Bizarre, non? C'est vraiment quelque chose qu'on doit éviter, je pense. Dans le psaume 5, au verset 4, il est dit, « Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et j'attends, car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir à la méchanceté. Le mal n'a pas sa place auprès de toi. » On peut détester le péché, on peut détester des actes qu'on a commis, détester des propos qu'on a dit, qu'on a prononcés. On peut détester ce qui nous empêche d'avancer, de pardonner. Si on réfléchit honnêtement, on a tous été moches avec quelqu'un, non? On a nos lâchetés. Nos inattentions, nos jugements, nos interprétations. Et on n'aime pas jouer le rôle du moche. Et pourtant. Parfois, dans notre époque un peu folle, des carrières célèbres se brisent sur un tweet, sur deux phrases, sur une photo qu'on a likée qu'on n'aurait pas dû, sur un SMS qu'on a envoyé trop vite. Des carrières se brisent. Alors vous dites, oui, mais ça, moi, ça ne me concerne pas. Si. Parce qu'on est influencé par ça. Et si t'as été moche, si le Seigneur te montre une personne à qui tu dois parler, une dame que tu dois remercier, un ami à qui tu dois demander pardon, fais-le, et pas par Messenger. Demande à le voir. Regarde cette personne dans les yeux et humblement parle. Cela enlève tellement de souffrance. Ça fait tellement en avancer le royaume. On peut comprendre un temps pour aimer et un temps pour détester vraiment de mille manières différentes. Est-ce que l'Ecclésiaste, c'est un livre pessimiste, pas facile à lire? Surtout quand on dit que tout est fumé, est-ce que c'est un passeport pour la dépression? Moi, je pense pas. Quand le malheur frappe, quand la tempête souffle, aimer, ça prend un autre sens. Ça prend un autre sens. Aimer, ça redevient le centre de nos préoccupations. Combien de fois j'ai entendu des personnes qui pleuraient un être cher et qui le pleuraient non pas seulement parce que la personne était partie, mais parce que si j'avais su, si j'avais dit, j'aurais dû. On vit dans le regret. Est-ce que le Seigneur est comme ça avec toi? Dieu ne nous demande pas ça. Je voudrais que vous vraiment imprimiez cette phrase en vous. Dieu vient maintenant dans ta vie, pas pour te reprocher ton passé, mais bien pour te convaincre qu'aujourd'hui, tu as un avenir. C'est important de vivre ça. Ça, c'est bien comprendre, bien vivre cette phrase. C'est penser dans son cœur en fonction de l'éternité. Parce que Dieu, hein, vous le disiez tout à l'heure dans la louange, Dieu nous a aimés sans condition, et en premier, et sans retour. Alors, je veux conclure d'abord en vous posant des questions gênantes. Si lui m'a pris dans ses bras en premier, s'il me pardonne toutes mes erreurs, tous les moments où j'ai été moche, toutes les personnes avec qui j'ai été moche, comment est-ce que moi je peux envisager de ne pas pardonner? Comment est-ce que moi je peux tenir debout devant Dieu avec des discours de haine envers quelqu'un? Comment est-ce que je peux tenir debout devant Dieu en critiquant mon copain? Est-ce que ce matin, Jacques, Francky, Maria, Marc, est-ce que ce matin, tu peux dans ton cœur dire, je vais aimer, sans espoir de retour? Est-ce que je peux le dire? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux le vivre? Est-ce que je peux le vivre? Dans ce voyage à l'intérieur de nous, dans ce face-à-face avec notre Père, on doit se réfugier derrière cet amour incroyable de Dieu. Cet amour, il peut tout renverser. Il peut tout inverser. Et il te permet de tout traverser. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Et je voulais vous laisser à chacun cette petite phrase pour finir. Profite de ce temps particulier pour aimer. Pour aimer détester. Et si tu peux, par ta pensée, par tes actions, par tes paroles, par ta vie, si tu peux approcher le sens de cet amour divin, cet amour divin qui dépasse tout ce que l'homme peut faire de mal, alors tout ira mieux. Si tu touches le sens de cet amour divin, tout ira mieux. Tout ira mieux. Merci Seigneur. Je te remercie pour tous mes frères et sœurs. Et je te prie pour que ce message soit un encouragement. Parce que Seigneur, toi tu ne tiens pas compte de notre passé. Et ce matin, tu veux nous convaincre qu'avec toi, on a un bel avenir. Amen.